France Inter, le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes.
Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin et d'essayer de nous expliquer ce qui se joue en ce moment même au nord de la Syrie. La situation s'envenime d'heure en heure. Emmanuel Macron craint une crise humanitaire insoutenable. Il y a déjà plusieurs dizaines de morts. En 5 jours d'offensive, le président turc Recep Tayyip Erdogan a-t-il réussi à semer le chaos dans la région?
Elle a réussi en tout cas à avancer ses pions tels qu'il l'imaginait. Il faut rappeler que l'opération reste très limitée géographiquement, c'est-à-dire ça avance lentement et se joue dans une sorte de corridor où la majorité est toujours arabe. Donc ça, il faut le prendre en considération.
Ça veut dire quoi, la majorité est toujours
arabe? Ça veut
dire
la majorité de la population là-bas est arabe. Donc c'est des gens qui ont été enrôlés avec le YPG kurde, sous le label Force démocratique syrienne, mais qui n'ont pas vraiment d'enjeu dans cette histoire. Donc pour certains, ils se sont pas battus, pour d'autres si, mais on voit que l'intensité des combats n'est pas très importante, parce que ce n'est pas le cœur du pays kurde en Syrie, qui se trouve donc à l'est de Kamishli. Donc c'est là-bas que tout se joue. Historiquement, les chefs du PKK, certains très importants, sont originaires de Syrie, de cette zone-là. Donc c'est là-bas que se joue le cœur du pays kurde. Donc avec l'avancée de l'armée turque, on peut imaginer que ça s'est fait en accord. Il n'a pas fait tout seul. Aujourd'hui, ceci arrange Damas, comme ça arrange aussi la Russie. Et on voit, d'après les réactions sur le terrain, qui se passent depuis la perte d'Alep par les rebelles en 2016 avec les accords d'Astana et tout ce qui a suivi, que tout ça se fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, entre Ankara, Téhéran et Moscou.
Alors, on va essayer de comprendre ce que vous dites, puisque c'est complexe. L'Orient est compliqué. Depuis hier soir, Bachar el-Assad est entré en scène. Le président syrien a envoyé ses troupes vers la zone kurde pour contrer ce qu'il appelle l'agression des Turcs. Comment comprendre sa décision d'intervenir? Est-ce qu'il y a un risque de guerre frontale entre d'un côté la Syrie, de l'autre la Turquie?
Moi, je ne pense pas. Ça reste des slogans, j'ai envie de dire. Rappelez-vous la bataille d'Efrin. Damas avait dit la même chose, ils ont fini par envoyer quelques miliciens et pas l'armée régulière, et les Russes n'ont pas intervenu. Et l'armée turque a pris Afrin. Parce que c'était encore, ça s'articulait dans le cadre de cet accord entre Ankara, Moscou et Téhéran. Donc c'est pas un accord gravé dans le marbre, c'est évolutif. Donc chacun ajuste après avec ses priorités, ses intérêts et aussi ses impératifs. Par exemple pour les Russes, le volet israélien. Vous voyez?
C'est quoi donc, le volet israélien?
C'est assurer la sécurité à la frontière et ne pas laisser le Hezbollah s'implanter dans le Golan. Voilà, c'est ça la priorité. C'est pour ça que Netanyahou ne cesse de faire des voyages à Moscou, etc. dans ce but-là. Donc chacun a des impératifs qui vont de manière parallèle, mais qui, in fine, font quand même un plan. Alors qu'en face, il n'y a pas de plan. Alors, en face, donc, les Occidentaux, la France, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Et on va parler des Occidentaux, mais pour revenir à ce que vous nous dites, c'est ce qui se joue depuis quelques jours dans cette région-là. Au fond, c'est l'application d'un plan qui a été dealé par le parrain russe avec les Turcs, avec les Syriens et avec les Iraniens. C'est ça, c'est-à-dire on se redistribue la région, puisque maintenant les Occidentaux démissionnent, eh bien on prend le pouvoir, c'est ça.
C'est pas maintenant les Occidentaux démissionnent, c'est le but, c'est de faire démissionner les Occidentaux, depuis 2016. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est acté en tout cas d'une manière définitive par l'administration de Trump. Mais la première pièce a été mise dans la machine par l'administration Obama aussi. Ça, il faut pas l'oublier. Donc c'est pas un plan russe qui contre un plan occidental. C'est un plan russe qui contre un non-plan occidental. Le problème des pays occidentaux, dont la France, c'est l'absence de plan. Et à différents niveaux, on peut aussi en parler. Donc Damas après devient un joueur mineur dans le jeu. Damas aussi essaie de tirer le plus d'intérêt de cet accord qui se fait plus loin. Ils ont réussi à récupérer Alep. Aujourd'hui, il y a eu des accords donc entre les forces démocratiques syriennes, donc le YPG kurde et Damas, pour que Damas reprenne des zones. Quelles zones? Manbij, Tabqa et Kamishli. Donc ces zones-là sont des zones arabe, surtout la ville de Kamishli, où déjà il y avait une bonne entente entre les YPG et Damas depuis le début de la rébellion. Donc tout le monde ajuste, c'est jamais noir ou blanc. C'est dans les rangs du YPG, ou ce qu'on a appelé après les forces démocratiques syriennes, il y a des gens qui sont plutôt proches de Damas, et d'autres qui sont plutôt proches des Américains. Mais aujourd'hui, ça joue en faveur de ceux qui sont proches des Russes et de Damas.
Tout n'est pas noir ou blanc, vous dites, mais tout de même, il y a quelque chose qui semble clair donc, quand on vous écoute ce matin, c'est que d'un côté, vous avez des Russes, des Turcs qui ont un plan, et de l'autre, vous avez des Occidentaux. Au fond, d'un côté, vous avez des Russes qui font de la politique, de la réelle politique, et en face, vous avez des Occidentaux qui tâtonnent, qui semblent hésitants, qui ont peur de leur ombre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue au niveau géopolitique?
C'est un game changer, comme on dit en anglais. Ce qui se passe en Syrie, c'est un enjeu qui va bien au-delà de la Syrie. On a des démocraties occidentales qui courent derrière l'opinion publique. Donc, on a des hommes politiques, je suis désolé de le dire, mais on a très peu d'hommes d'État. Alors qu'en face, c'est pas des démocraties, mais ils ont un plan qu'ils arrivent à articuler sur le terrain comme ils veulent. Ils ont pas peur de leur opinion. C'est ça qui fait aussi toute la différence sur le terrain. Ça veut dire quand Poutine décide d'envoyer un petit contingent quand même russe et arrive à soutenir Assad en 2015 et à le maintenir, à aujourd'hui devenir le broker de ce qui se passe en Syrie, en face, les Américains ont envoyé des troupes, les Français ont envoyé des troupes. Tout ce qui nous intéressait en tant que Zanton, c'est le djihadiste radicalisé, comment on va le garder en prison, qu'est-ce qu'on va en faire, alors que tout le monde est dans la guerre d'après. Depuis un moment, regardez ce qui s'est passé à Kirkuk, par exemple, en Irak. Dès que l'État islamique a été contenu, et ne pas vaincu, les milices chiites et les forces de sécurité irakiennes ont combattu les Peshmerga à Kirkuk. Et tout le monde a dit, oh là là, comment ça se fait, les Occidentaux n'aident pas les Kurdes en Irak? C'était déjà le cas en Irak, donc à cause du référendum.
Ce que vous nous dites, c'est que les Occidentaux, au fond, sont obsédés par la question des djihadistes.
Qui n'est pas une question stratégique.
Et ne font plus de stratégie. Voilà. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine en profite et fait de la politique.
Tout à fait. Et les Iraniens avec lui.
Qu'est-ce qui nuirait aujourd'hui à Erdogan? Qu'est-ce qui lui ferait mal? Est-ce que l'Europe notamment, est-ce que les Européens, on a vu qu'il y a eu un conseil de défense hier organisé par Emmanuel Macron, est-ce que les Européens ont les moyens de faire réfléchir Erdogan ou pas?
Écoutez, je ne pense pas, parce que même si les Américains n'ont pas réussi à le faire réfléchir, alors que c'est que la Turquie est un membre de l'OTAN, c'est pas les Européens qui vont le faire. Il a acheté des missiles sol-air russes justement pour faire pression sur les États-Unis. Il a les réfugiés, il a la carte des réfugiés.
Alors justement,
il peut dire moi j'ouvre les vannes quand je veux. Et en plus des réfugiés, il faut pas oublier qu'il y a des accords entre l'Europe, entre la France et la Turquie, en ce qui concerne les djihadistes. Il y a le protocole Cazeneuve qui marche depuis 2014. Donc, quels sont les enjeux? Il y a les enjeux de cœur pour le YPG, pour les Kurdes, mais il y a les enjeux des États. Et pour les États, il y a une grande hypocrisie parce que personne, aucun État occidental n'a voulu que les Kurdes de Syrie aient leur propre entité révolutionnaire, communiste, qui s'implante dans cette zone.
Les djihadistes, parlons-en. Hier, les Kurdes ont annoncé que 800 femmes et enfants de djihadistes avaient fui un camp de réfugiés. On rappelle qu'il y en a 10 000 djihadistes qui seraient en ce moment même gardés par les Kurdes, dont 2 000 étrangers. D'abord, les chiffres, 800 femmes et enfants de djihadistes dans la nature, est-ce que c'est confirmé ça?
C'est confirmé par différentes sources sur zone, mais ce qui reste à nuancer, c'est femmes et enfants de djihadistes, parce qu'il faut voir aussi que ça peut être les cousins, ça peut être la famille, ça peut être le quartier, donc c'est pas vraiment des gens qui sont forcément engagés dans le combat. Mais à la décharge du YPG, comme dans toute zone de guerre, et tout le monde le sait, quand il y a une prison, des détenus, le territoire change de main, les prisons s'ouvrent. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Vous savez, les YPG n'allaient pas tous les tuer.
D'accord, mais quand Emmanuel Macron craint une résurgence de l'État islamique, il a raison.
Mais il la craint, elle est déjà actée depuis un moment. Ça veut dire, ça, tous ceux qui suivent la situation là-bas le savent. Les djihadistes, ils le disent eux-mêmes, quand on lit leur littérature, quand on leur parle, et je vous parle des Syriens, des Irakiens, qu'ils attendent que cette alliance hétéroclite se dénoue, pour revenir sur la scène et profiter du chaos qui va s'installer.
Donc on s'est réjoui de la fin de l'État islamique et de la victoire sur le terrain au Proche-Orient. En fait, l'État islamique est toujours là, ce que vous me dites ce matin.
Tout à fait.
Merci à vous, Wassim Nasr. Vous êtes auteur d'État islamique, le fait accompli chez Plon. Belle journée.
Merci.
Merci Léa. À tout à l'heure, 8h20.